source d'inspiration par Khyentse Rinpoche. Rappelez-vous que les pensées ne sont que le produit de la conjonction fugace d'un grand nombre de facteurs. Elles n'existent pas par elles-mêmes. Aussi, dès qu'elles surgissent, reconnaissez leur nature qui est vacuité. Elles perdront aussitôt le pouvoir d'engendrer d'autres pensées, et la chaîne de l'illusion sera rompue. Reconnaissez cette vacuité des pensées et laissez ces dernières se relâcher dans la clarté naturelle de l'esprit limpide et inaltéré. Quand un rayon de soleil frappe un morceau de cristal, des lumières irisées en jaillissent, brillantes, mais insubstantielles. De même, les pensées dans leur infinie variété, dévotion, compassion, méchanceté, désir, sont insaisissables, immatérielles, impalpables. Il n'en est pas une qui ne soit vide d'existence propre. Si vous savez reconnaître la vacuité de vos pensées au moment même où elles surgissent, elles s'évanouiront. La haine et l'attachement ne pourront plus ébranler votre esprit, et les émotions perturbatrices cesseront d'elles-mêmes. Vous n'accumulerez plus d'actes néfastes, et de ce fait, vous ne causerez plus de souffrance. Voilà l'ultime pacification. À la recherche de l'ego. Comprendre la nature de l'ego et son mode de fonctionnement est d'une importance vitale si l'on souhaite se libérer de la souffrance. L'idée de se dégager de l'emprise de l'ego peut nous laisser perplexes, sans doute parce que nous touchons à ce que nous croyons être notre identité fondamentale. Nous sommes conscients du fait qu'à chaque instant, depuis notre naissance, notre corps s'est continuellement transformé et que notre esprit a été le théâtre d'innombrables expériences nouvelles. Mais d'instinct, nous imaginons que, quelque part, au plus profond de nous, siège une entité durable qui confère une réalité solide et une permanence à notre personne. Cela nous semble si évident que nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner plus attentivement cette intuition. Il s'ensuit un puissant attachement aux notions de moi, puis de mien. Mon corps, mon nom, mon esprit, mes possessions, mes amis, etc. qui entraîne soit un désir de possession, soit un sentiment de répulsion à l'égard de l'autre. C'est ainsi que la dualité irréductible entre moi et autrui se cristallise dans nos pensées. Ce processus nous assimile à une entité imaginaire. L'ego, c'est aussi le sentiment exacerbé de l'importance de soi qui découle de cette construction mentale. Il place son identité fictive au centre de toutes nos expériences. Pourtant, comme on le verra ci-dessous, dès que l'on analyse sérieusement la nature du moi, on s'aperçoit qu'il est impossible de mettre le doigt sur une quelconque entité distincte qui lui corresponde. En fin de compte, il s'avère que l'ego n'est qu'un concept que nous associons au continuum d'expérience qu'est notre conscience. Notre identification à l'ego est fondamentalement dysfonctionnelle, car elle est en porte-à-faux avec la réalité. Nous attribuons en effet à cet ego des qualités de permanence, de singularité et d'autonomie, alors que la réalité est tout au contraire changeante, multiple et interdépendante. L'ego fragmente le monde et fige une fois pour toutes la division qu'il établit entre moi et autrui, mien et non mien. Fondé sur une méprise, il est constamment menacé par la réalité, ce qui entretient en nous un profond sentiment d'insécurité. Conscient de sa vulnérabilité, nous tentons par tous les moyens de le protéger et de le renforcer, éprouvant de l'aversion pour tout ce qui le menace et de l'attirance pour tout ce qui le sustente. Et de ces pulsions d'attraction et de répulsion naissent une foule d'émotions conflictuelles. Nous pourrions penser qu'en consacrant la majeure partie de notre temps à satisfaire et à renforcer cet ego, nous adoptons la meilleure stratégie possible pour trouver le bonheur. Mais c'est un pari perdant, puisque c'est tout le contraire qui se produit. En imaginant un ego autonome, nous nous trouvons en contradiction avec la nature des choses, ce qui se traduit par des frustrations et des tourments sans fin. Consacrer toute notre énergie à cette entité imaginaire a des effets puissamment délétères sur la qualité de notre vie. L'ego ne peut procurer qu'une confiance en soi factice, fondée sur des attributs précaires, le pouvoir, le succès, la beauté et la force physique, le brio intellectuel et l'opinion d'autrui, et sur tout ce qui constitue notre image. La vraie confiance en soi est tout autre. C'est paradoxalement une qualité naturelle de l'absence d'ego. Dissiper l'illusion de l'ego, c'est s'affranchir d'une faiblesse fondamentale. La confiance en soi qui ne repose pas sur l'ego va de pair avec un sentiment de liberté qui n'est plus soumis aux contingences émotionnelles. Elle s'accompagne d'une invulnérabilité face au jugement d'autrui et d'une acceptation intérieure des circonstances, quelles qu'elles soient. Cette liberté se traduit par un sentiment d'ouverture à tout ce qui se présente. Il ne s'agit pas de la froideur distante, du détachement sec ou de l'indifférence que l'on imagine parfois lorsqu'on se représente le détachement bouddhiste, mais d'une disponibilité bienveillante et courageuse qui s'étend à tous les êtres. Lorsque l'ego ne se repaît pas de ses triomphes, il se nourrit de ses échecs, en s'érigeant en victime. Alimenté par ses constantes ruminations, sa souffrance lui confirme son existence autant que son euphorie. Qu'il se sente porté au pinacle, diminué, offensé ou ignoré, l'ego se consolide en n'accordant d'attention qu'à lui-même. L'ego est le résultat d'une activité mentale qui crée et maintient en vie une entité imaginaire dans notre esprit. C'est un imposteur qui se prend à son jeu. L'une des fonctions de la vue pénétrante, Vipassana, est de démasquer l'imposture de l'ego. En vérité, nous ne sommes pas cet ego. Nous ne sommes pas cette colère. Nous ne sommes pas ce désespoir. Notre niveau d'expérience le plus fondamental est celui de la conscience pure. Cette qualité première de la conscience dont nous avons parlé précédemment et qui est le fondement de toute expérience, de toute émotion, de tout raisonnement, de tout concept et de toute construction mentale, l'ego y compris. Mais attention, cette conscience pure, cette présence éveillée n'est pas une nouvelle entité. Plus subtile encore que l'ego, elle est une qualité fondamentale de notre courant mental. L'ego n'est rien de plus qu'une construction mentale plus durable que les autres, parce qu'elle est constamment renforcée par nos chaînes de pensée. Cela n'empêche pas ce concept illusoire d'être dénué d'existence propre. Cette étiquette tenace ne tient sur le flux de notre conscience que grâce à la colle magique de la confusion mentale. Pour démasquer l'imposture du moi, il faut mener l'enquête jusqu'au bout. Celui qui soupçonne la présence d'un voleur dans sa maison doit inspecter chaque pièce, chaque recoin, chaque cachette possible, jusqu'à être sûr qu'il n'y a vraiment personne. Alors seulement peut-il avoir l'esprit en paix. Méditation. Examinons ce qui est supposé constituer l'identité du moi. Notre corps, un assemblage d'os et de chair, Notre conscience? Une succession de pensées fugaces. Notre histoire? La mémoire de ce qui n'est plus. Notre nom. Nous lui attachons toutes sortes de concepts. Celui de notre filiation, de notre réputation et de notre statut social. Mais en fin de compte, il n'est rien de plus qu'un assemblage de lettres. Si l'ego constituait vraiment notre essence profonde, on comprendrait notre inquiétude à l'idée de nous en débarrasser. S'il n'est qu'une illusion, s'en affranchir ne revient pas à extirper le cœur de notre être, mais simplement à dissiper une erreur et à ouvrir les yeux sur la réalité. L'erreur n'offre aucune résistance à la connaissance, pas plus que l'obscurité n'offre de résistance à la lumière. Des millions d'années de ténèbres peuvent disparaître instantanément. À peine une lampe est-elle allumée. Lorsque le moi cesse d'être considéré comme le centre du monde, on se sent naturellement concerné par les autres. La contemplation égocentrique de nos propres souffrances nous décourage, alors que le souci altruiste des souffrances d'autrui ne fait que redoubler notre détermination à œuvrer à leur soulagement. Le sentiment profond d'un « moi » qui serait au cœur de notre être, c'est bien cela que nous devons donc examiner honnêtement. Où se trouve ce « moi » ? Il ne peut être uniquement dans mon corps, car lorsque je dis « je suis triste », c'est ma conscience qui éprouve une impression de tristesse, pas mon corps. Se trouve-t-il alors uniquement dans ma conscience? C'est loin d'être évident. Quand je dis « quelqu'un m'a poussé », est-ce ma conscience qui a été poussée? Certes non. Le moi ne saurait se trouver en dehors du corps et de la conscience. La notion de moi est-elle simplement associée à l'ensemble du corps et de la conscience? Nous passons alors à une notion plus abstraite. La seule issue à ce dilemme consiste à considérer le moi comme une désignation mentale attachée à un processus dynamique, à un ensemble de relations changeantes qui intègrent nos sensations, nos images mentales, nos émotions et nos concepts. Le moi n'est finalement qu'un nom par lequel on désigne un continuum, de la même façon qu'on appelle un fleuve Amazone ou Gange. Chaque fleuve a une histoire. Il coule dans un paysage unique et son eau peut avoir des propriétés curatives ou être polluée. Il est donc légitime de lui donner un nom et de le distinguer d'un autre fleuve. Cependant, il n'existe pas dans le fleuve une entité quelconque qui serait le cœur ou l'essence du fleuve. De même, le moi existe de manière conventionnelle, mais en aucune façon sous la forme d'une entité qui constituerait le cœur de notre être. L'ego a toujours quelque chose à perdre et quelque chose à gagner. La simplicité naturelle de l'esprit, elle, n'a rien à perdre et rien à gagner. Il n'est pas nécessaire de lui retrancher ou de lui rajouter quoi que ce soit. L'ego se nourrit de la rumination du passé et de l'anticipation de l'avenir. Mais il ne peut survivre de la simplicité du moment présent. Demeurons dans cette simplicité, dans la pleine conscience du maintenant, qui est liberté, apaisement ultime de tout conflit de toute fabrication, de toute projection mentale, de toute distorsion, de toute identification et de toute division. Il vaut donc la peine de consacrer un peu de notre temps à laisser notre esprit reposer dans le calme intérieur, pour lui permettre de mieux comprendre, par l'analyse et par l'expérience directe, la place qu'occupe l'ego dans notre vie. Tant que le sentiment de l'importance de soi tient les rênes de notre être, nous ne connaîtrons jamais de paix durable. La cause même de la douleur continuera à reposer intacte au plus profond de nous et nous privera de la plus essentielle des libertés. Abandonner cette fixation sur l'ego et ne plus s'identifier à lui revient à gagner une immense liberté intérieure. Liberté qui permet d'aborder tous les êtres que l'on rencontre en toute situation avec naturel, bienveillance, courage et sérénité. N'ayant rien à gagner ni rien à perdre, on est libre de tout donner et de tout recevoir. Méditation sur la nature de l'esprit. Lorsque l'esprit s'examine lui-même, que peut-il apprendre sur sa propre nature? La première chose qu'il remarque, ce sont les innombrables chaînes de pensée qui traversent notre esprit. Que nous le voulions ou pas, et que nourrissent nos sensations, notre imagination, nos souvenirs et nos projections d'avenir. Cependant, n'y a-t-il pas aussi une qualité lumineuse de l'esprit qui éclaire notre expérience, quel que soit son contenu? Cette qualité, c'est la faculté cognitive fondamentale qui sous-tend toute pensée. Ce qui, dans la colère, voit la colère sans être la colère, ni s'y laisser entraîner. Cette simple présence éveillée peut être appelée conscience pure, car on peut l'appréhender, même en l'absence de concepts et de construction mentale. La pratique de la méditation montre que si nous laissons nos pensées se calmer, nous pouvons demeurer quelques moments dans l'expérience non conceptuelle de cette conscience pure. C'est cet aspect fondamental de la conscience, libre des voiles de la confusion, que le bouddhisme appelle nature de l'esprit. Cette notion n'est certes pas évidente. On conçoit que des psychologues, des spécialistes des neurosciences et des philosophes s'interrogent sur la nature de la conscience. Mais en quoi sa compréhension peut-elle affecter notre expérience personnelle? C'est pourtant bien à notre esprit que nous avons affaire du matin au soir, et c'est lui qui, en fin de compte, détermine la qualité de chaque instant de notre existence. Si le fait de mieux connaître sa nature véritable et de comprendre ses mécanismes influe de manière cruciale sur cette qualité, on saisit mieux l'importance de s'interroger sur celui-ci. Sinon, faute de comprendre son propre esprit, on demeure étranger à soi-même. Les pensées surgissent de la conscience pure et s'y dissolvent à nouveau, comme les vagues s'élèvent de l'océan et s'y résorbent sans jamais devenir autre chose que l'océan lui-même. Il est essentiel de réaliser cela si l'on veut s'affranchir des automatismes habituels de pensée qui engendrent la souffrance. Identifier la nature fondamentale de la conscience et savoir y reposer dans un état non duel et non conceptuel est l'une des conditions essentielles de la paix intérieure et de la libération de la souffrance.